Chapitre 13. Après. À mort les vaincus. C'était bien la peine de nous mener la vie dure pendant si longtemps pour terminer comme ça. Les Grecs sont invincibles. À mort les vaincus. Sous une chaleur accablante, les prisonniers troyens traversent le pauvre village d'Argos, entre deux haies de paysans et de femmes venues les conspuer. Des adolescents s'aventurent même à cracher sur eux. Protégé par ses souvenirs, Cassandre s'efforce de regarder au loin vers l'horizon, comme si un mirage de Troie allait apparaître dans le ciel et lui redonner des forces. Mais la sombre bâtisse qui bientôt se dessine sur une colline desséchée par le soleil ne ressemble guère au mur majestueux de la ville de Priam. « Mycène !» annonce fièrement Agamemnon en s'approchant de la jeune femme. Depuis qu'elle a conjuré la tempête, il la traite avec respect, presque comme une invitée de marque. À chaque halte, il lui offre du vin, l'entraîne à l'ombre d'un olivier pour qu'elle puisse reprendre des forces. Elle lit dans son regard qu'il la trouve belle, mais cela la laisse totalement indifférente. Apollon aussi l'a trouvée belle un jour, et n'a fait que son malheur. Son père, lui, l'aimait vraiment, et aujourd'hui il n'est plus là pour la réconforter. Depuis qu'elle a quitté Troie, elle a l'impression d'être morte, et de hanter un monde qui lui est étranger. De près, le palais d'Agamemnon lui paraît un peu moins laid, mais tout aussi austère. Après être passé sous les immenses portes de la forteresse que gardent des lionnes de pierre au regard indéchiffrable, il s'engouffre dans un dédale de voûtes, de couloirs étroits, d'escaliers irréguliers, de salles obscures et glacées. « Vous avez froid ?» demande Agamemnon qui précède Alexandre Cassandre de quelques pas. Voilà qu'il la vouvoie maintenant. Depuis qu'il a reconnu ses pouvoirs, elle n'est donc plus une chienne de Troyenne. Cassandre ne daigne même pas lui répondre. Ce n'est pas le froid qui l'a fait trembler, ni même la peur de la mort qui l'attend. C'est ce qu'elle a senti de nouveau en passant sous la grande arche. Les Atrides, famille du roi Agamemnon, sont maudits. Tout au long de sa progression vers le cœur du palais, la jeune prêtresse a senti l'odeur fade et tiède du sang, comme s'il ruisselait partout sur la pierre. « Pourquoi m'avoir amené ici, Apollon ? » murmure-t-elle assez bas pour que le grec ne puisse l'entendre. « Que dois-je faire ? Garder pour moi ce que je sais ou dire au roi qui marche devant moi qu'il va bientôt mourir assassiné ?» Une voix soudain résonne à quelques pas. Elle réalise alors que ses compatriotes ne sont plus derrière elle. Elle est seule avec le roi et cette femme imposante qui vient de parler. La reine, bien sûr, Clytemnestre. Votre réputation vous a précédé jusqu'ici. Votre don est, paraît-il, étonnant. Accepterez-vous de participer au sacrifice, d'interpréter les oracles ? Cassandre lève les yeux vers la reine. Oui, elle vient de le décider, elle va proclamer la vérité tout à l'heure, lorsqu'elle se trouvera au milieu de la cour. Ses paroles vont signer sa condamnation à mort, mais elle n'a aucune chance de toute façon de rester en vie, et elle n'en a plus le désir. Et puis sa vocation est de dire ce qu'elle sait, ce qu'elle voit, et jusqu'au bout elle accomplira sa tâche. Satisfaite de la docilité de la belle prisonnière, l'hypocrite Clytemnestre la conduit tout au long du tapis pourpre qui mène à l'endroit du sacrifice. « Pourpre comme le sang !» murmure encore Cassandre. Puis soudain s'arrête en net et parcourant du regard la foule des courtisans, elle laisse parler la voix qui jaillit en elle, presque malgré elle. « Écoutez-moi, car c'est sans doute la dernière fois qu'on me laisse vous parler. Cette forteresse que vous appelez un palais est couverte de sang. Vous voulez oublier tous les crimes qui ont eu lieu ici, mais il y en aura beaucoup d'autres si vous ne cessez de faire la guerre. Faites la taire, cette femme est folle, il faut l'empêcher de délirer, on n'a pas besoin de ses prophéties. » Elle a déclenché un beau tumulte, mais personne n'ose s'approcher d'elle, et elle poursuit sans une hésitation, presque surprise elle-même par ses propres paroles. « Qu'importe que vous ne me croyiez pas, même si je me taisais, ce qui doit arriver se produira. Agamemnon, toi qui es revenu ici en vainqueur, tu mourras en pleine force de l'âge, assassiné par des mains qui te sont chères. » Stupeur dans le regard du roi, colère dans celui de la reine. Clytemnestre a compris que Cassandre l'a percé à jour. En cet instant, elle décide que la jeune prêtresse doit mourir, et Cassandre le sait, bien sûr. Elle a toujours su, d'ailleurs, comment elle mourrait. Tout ce qu'elle redoute maintenant, c'est l'odeur de sueur des gardes qui vont l'emmener, l'instant de frayeur au moment où le couteau se lèvera, le contact glacé de la lame. Mais ensuite, son destin sera accompli. Elle pourra enfin déposer le fardeau qu'Apollon a mis sur ses épaules, et les siens seront vengés, car Agamemnon paiera chèrement sa victoire. Maintenant que la fin est proche, une fois de plus, elle oublie tout ce qui l'entoure, ces murs sombres qui renferment tant de violence, le regard brillant du roi grec et la bouche cruelle de Clytemnestre, pour ne plus penser qu'à la Troie de son enfance, à ses jeux au bord du Scamandre et aux doux moments passés auprès de son père des siècles avant cette guerre stupide. et lorsque l'on l'entraîne dehors sur une plateforme qui domine toute l'étendue du palais et où doit avoir lieu l'exécution, elle lève les yeux vers le soleil pour adresser une dernière prière à Apollon. « J'ai tenu parole, je t'ai obéi, et c'est ainsi que tu me remercies. Mais je sais que tu tiendras parole à ton tour, que tu feras payer aux Grecs cette victoire que tu leur as offerte. C'est pourquoi je vais mourir sereine, les yeux fixés sur ta clarté magnifique. » Le bourreau s'approche, sa lame brille dans le soleil, mais Cassandre ne la voit pas. Le présent n'existe plus pour elle. Elle est déjà ailleurs, dans un monde qu'elle seule peut contempler, celui de l'éternité.